8 milliards de voisins, c'est maintenant.
8 milliards de voisins avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 8 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, nous parlons éducation, comme chaque semaine. Alors que la planète vient de vivre l'année la plus chaude jamais atteinte en 2023, avec des températures affolantes sur le continent africain, à retrouver d'ailleurs toutes ces informations sur RFI.fr et dans nos éditions sur RFI, nous allons nous interroger comment former les ingénieurs de demain face à cette urgence climatique, notamment celle de sortir des énergies fossiles, principale source d'émissions de CO2. En clair, les écoles d'ingénieurs sont-elles vraiment en train d'adapter leur enseignement? Rappelons que dans un pays comme la France, réputé pour former parmi les meilleurs ingénieurs du monde, grâce à leur formation scientifique exigeante, ces mêmes ingénieurs sont aussi programmés pour une certaine démesure de l'innovation au service toujours de la croissance économique. Alors comment sortir du mythe techno-solutionniste ou encore du mirage de la croissance verte pour enseigner autrement en regardant la réalité climatique avec lucidité? Nous allons en discuter avec nos invités. Damien Amichaud, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes consultant en transition écologique et chef de projet au Shift Project. Le Shift Project, c'est une association française, un laboratoire d'idées pour l'atténuation du changement climatique et la réduction de la dépendance de l'économie aux énergies fossiles, hein, donc bien sûr du pétrole. Nous sommes également en liaison à Lyon avec Nicolas Freud. Bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes directeur adjoint de l'INSA Lyon, Institut National des Sciences Appliquées, une grande école d'ingénieurs dans laquelle vous êtes en charge de la transformation socio-écologique. Et puis nous sommes aussi en ligne avec un étudiant en génie mécanique qui nous dira quelles sont ses attentes aussi concernant l'évolution de l'enseignement. Bonjour Nicolas Langanet.
Bonjour.
Vous êtes vous aussi étudiant à l'INSA Lyon. Et bien évidemment, vous pourrez aussi poster vos messages, si vous le souhaitez, les voisins, au 33 7 64 45 51 41.
8 milliards de voisins.
Pour séparer.
C'est une émission pour tous les voisins et tous les voisines.
8 milliards de voisins, voisines. Construisons la vie ensemble.
Et tout de suite, l'école autour du monde. D'abord, pour vous informer sur l'actualité de l'éducation chaque semaine, direction Singapour, où l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les écoles est tolérée à des fins éducatives, tolérée même encouragée par le gouvernement. Le but, c'est d'optimiser l'apprentissage des élèves avec un cadre vraiment pédagogique. Nous sommes avec notre correspondante en Asie du Sud-Est. Bonjour Juliette Pietraszewski, pardonnez-moi.
Bonjour Emmanuel, bonjour à tous.
Juliette, cette position de Singapour à l'égard de ChatGPT a été officialisée lors d'une prise de parole du ministre singapourien de l'Éducation.
Oui, cette prise de parole remonte à l'an dernier, alors que beaucoup de pays du monde entier semblaient plutôt anxieux à l'égard de cette intelligence artificielle qui était, il faut le dire, au centre de l'attention et des passions médiatiques. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que le discours du ministre singapourien de l'Éducation s'est voulu prudent, rassurant, optimiste. Shan Shunsing, c'est son nom, estime ainsi que les outils d'intelligence artificielle vont se démocratiser dans tous les milieux. Conclusion, eh bien, il faut savoir les maîtriser et tout ça, ça commence dès l'école. Et pour appuyer cette idée, le ministre singapourien de l'Éducation a même comparé la démocratisation de l'IA à l'apparition de la calculatrice. Écoutez.
As with any technology, ChatGPT...
Comme pour toute technologie, ChatGPT et les outils d'intelligence artificielle similaires présentent à la fois des opportunités et des défis pour les utilisateurs. Nos éducateurs continueront d'enseigner aux élèves les concepts fondamentaux et de les guider contre le développement d'une dépendance excessive aux outils technologiques. La façon dont une calculatrice aide les élèves à apprendre les mathématiques, par exemple, ne remplace pas la nécessité de maîtriser d'abord les opérations mathématiques de base chez nos élèves.
Alors, et on sait aussi que les élèves singapouriens sont ont particulièrement un bon niveau en mathématiques. Juliette Pietraszewski, l'idée du ministre de l'Éducation singapourien, c'est donc d'utiliser ChatGPT uniquement si les concepts de base sont déjà maîtrisés?
Oui, c'est exactement ça. Selon le ministre singapourien, l'intelligence artificielle peut être un outil très utile pour apprendre si et seulement si les élèves maîtrisent déjà les bases et les réflexions de la matière concernée. La question centrale que pose ce discours, c'est donc de savoir comment utiliser ces outils de manière responsable. Les étudiants doivent donc être capables d'évaluer de manière critique les réponses de ces derniers. Des réponses qui peuvent être inexactes ou biaisées, a également rappelé le ministre de l'Éducation.
Et dans les écoles de Singapour, comment ça se passe concrètement ?
Alors, dans certaines classes de Singapour, les enseignants guident les élèves, les étudiants sur la manière de construire, de présenter leurs demandes spécifiques à l'IA. Les élèves inscrits au programme du baccalauréat international dans 21 écoles de Singapour, par exemple, peuvent utiliser du contenu créé par l'outil d'intelligence artificielle, ChatGPT, mais à la condition de créditer, de référencer le contenu en question dans leurs travaux. La technologie ne sera pas utilisée comme une béquille, mais comme un trampoline pour propulser les normes vers des sommets encore plus élevés. C'est ce qu'a déclaré le directeur de l'éducation du Westbourne College. De son côté, le ministère de l'éducation singapourien a souligné l'importance d'utiliser différents types d'évaluations, des examens qui nécessitent de l'analyse, des notes de terrain, des détails d'observation, des choses qu'une intelligence artificielle ne pourrait pas créer à la place des élèves. En parallèle, la cité-État assure que des outils technologiques sont mis au point pour détecter les travaux générés par une IA. La triche reste de la triche, avait notamment déclaré le ministre de l'Éducation l'an dernier.
Merci Juliette Pietraszewski, correspondante en Asie du Sud-Est.
8 milliards de voisins, parce que nous sommes tous des voisins.
Nous restons dans l'innovation technologique, mais dans les écoles d'ingénieurs, des écoles qui doivent plus que jamais s'adapter au réchauffement climatique. Et d'ailleurs, j'aimerais bien avoir votre réaction, Damien Amichaud. Que représente l'intelligence artificielle dans cette perspective ? Qu'est-ce que ça vous évoque, ce qu'on vient d'entendre sur l'enseignement primaire et secondaire à Singapour ?
Eh bien, ce que ça m'évoque, c'est que l'IA, c'est la suite logique du numérique. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a une exponentielle, donc on accélère vraiment les développements, on accélère les impacts. Donc, ça veut dire que concrètement, en Afrique, ça veut dire quoi ? L'augmentation de l'IA, ça veut dire plus de numérique, ça veut dire plus de déchets numériques, des data centers, des ordinateurs. Donc concrètement, ça veut dire des personnes qui vont être exposées à des déchets sans aucune protection parce qu'on n'a pas un usage raisonné de cette technologie. J'ai pas l'impression qu'on ait concrètement choisi tous ensemble d'aller vers l'IA. Ça peut nous apporter énormément de choses. Maintenant, je m'interroge aussi sur la faisabilité de contrôler vraiment l'usage de ChatGPT ou autres... intelligence artificielle. Aujourd'hui, c'est déjà le cas.
Nicolas Freud, on évoquait la triche, l'utilisation de ChatGPT et de la triche. Vous vous sentez concerné dans votre école d'ingénieur, par exemple ?
Oui, absolument. Ça fait partie de nos débats. Comment on s'empare de ces nouveaux outils ? Comment on apprend à nos étudiants à exercer leur esprit critique par rapport à ça ? Mais c'est vrai que c'est des technologies. On a l'impression qu'elles s'imposent à nous, qu'on peut pas lutter contre d'une certaine manière et que malgré les dangers que ça présente, on est obligé de s'en servir. Oui, alors... Ça, c'est quelque part un petit peu, pour moi, ça me fait un petit peu réfléchir et bon, je trouve que c'est quand même assez dangereux par certaines dérives que ces technologies présentent.
Alors bon, on est en plein dans le sujet, ça y est, vous l'avez dit, ce sont des technologies qui s'imposent à nous. Néanmoins, elles ont bien été conçues, ces technologies, par des ingénieurs. Hein. Et donc justement, on va parler de la responsabilisation des écoles d'ingénieurs. Comment doivent-elles modifier, adapter leur programme d'enseignement face aux défis climatiques, aux défis de la transition écologique ? On va en discuter, on se retrouve juste après cette création reggae avec le Jamaïcain Scaramucci et le collectif L'Entourloupe, Street Dance chez 8 milliards de voisins sur RFI. Positive voice, they make the whole place live. Mix a baseline like me name Scientist. Old school style like me name King Tubbies. Tell you this, you want you are the real business. Real sound system from the 80s. Long, long time, we don't want no nice time. Long, long time, we don't see the girl whine. Long, long time, we don't feel so fine. A long, long time, we don't feel the baseline.
Long time, we don't want no nice time. Long time, fingers in her hand and spliffing her mouth. How you doing, oh?
What you talking about?
6 o'clock in the morning, sun a come out. Bass a DC and Jaro, dubs a push out. Troop a make a shout and me glass drop out. Everybody out and about, you know, having a peanut, drinking a mannish water, smoke a liquor spliff. You see, me miss them days, the bro. Real nice time.
It's been a long time.
8 milliards de voisins, nous parlons éducation comme chaque semaine et comment les écoles d'ingénieurs aujourd'hui doivent s'adapter à la transition écologique, aux défis climatiques. On en discute d'abord avec vous, étudiant Nicolas Langanet. Vous avez 22 ans, vous êtes étudiant ingénieur en génie mécanique. Vous aviez quoi, à peu près 18 ans, lorsque la première génération d'étudiants en école d'ingénieurs a commencé vraiment à compter, enfin une poignée d'étudiants, hein, précisons-le, à contester l'enseignement dans les grandes écoles d'ingénieurs dont vous faites partie, Nicolas Langanet?
Oui, c'est ça. Du coup, je suis arrivé en école d'ingénieur en 2018. En France, à ce moment-là, c'est le début des grèves climat, dans la suite des mouvements de mobilisation lancés par Greta Thunberg. Et c'est un moment d'effervescence et de forte réflexion politique chez les étudiants ingénieurs. Très vite, il va y avoir une mobilisation qui va se passer à Lyon en mars 2019 et où l'INSA Lyon va être très représentée durant ce moment. Et ensuite, on va très vite se poser la question de comment, en tant qu'étudiant ingénieur, on peut s'informer, se former sur la question, et on se dit que l'école, en fait, les cours où on est toute la journée, peuvent être l'endroit où les questions qui traitent d'énergie, de climat, de ressources, d'environnement, de biodiversité pourraient être directement dans nos cours, peu importe les départements.
Vous aviez l'impression, en tant qu'étudiant à l'époque, que ce que vous appreniez en salle de cours était déconnecté de l'urgence climatique ?
Oui, c'est une certitude. Je pense que c'est encore le cas. Au vu de l'ampleur des enjeux et de la temporalité, ça arrive tout de suite. C'est déjà là, dans plein de lieux, les conséquences du réchauffement climatique. Et pour autant, notre formation change, mais à la marge. Et on a besoin, le plus tôt possible, d'avoir un maximum de compréhension sur des sujets qui sont très divers pour pouvoir ensuite, quand on sera ingénieur, pouvoir prendre des décisions et analyser correctement le monde à l'aune de toutes ces transformations majeures.
Nicolas Langanet, vous avez vécu en Guyane pendant 10 ans. Quelle conviction ça a forgé chez vous et pourquoi vous avez souhaité devenir ingénieur ?
Alors, la Guyane est assez importante pour moi, notamment sur... C'est un gros moment, un moment central pour ma politisation et ma compréhension des enjeux écologiques. Notamment, on m'a dit un jour que la Guyane, toute sa forêt pouvait devenir une savane à cause du réchauffement climatique. Ça m'a beaucoup choqué. Et aussi, il y avait le projet Montagne d'Or, donc grand projet minier pour extraire de l'or, qui a été, dans les années fin 2018, un moment pour moi de première mobilisation écologique.
Et comment les étudiants peuvent être consultés sur le contenu des cours alors que, en fait, on est encore dans un système, une didactique à la française où la connaissance, elle est détenue par les enseignants quand même?
Là, dans ce cas précis, on a pris notre place en tant qu'étudiant, on s'est organisé et on s'est dit, oui, nous avons la légitimité de pouvoir nous adresser directement aux enseignants. Les enseignants qui sont face à nous ne sont pas experts, ne sont pas connaisseurs de ces sujets. Et en fait, très rapidement, on se retrouve, étudiants et enseignants, à être sur un niveau de connaissance comparable. Les enseignants seront là sur du temps plus important, donc ça sera à eux de se former pour pouvoir transmettre de plus en plus. Mais au moment où nous, on s'est lancé dans les collectifs pour faire évoluer la formation, le niveau de compétence était similaire, même si j'étais en première année d'école, et même si nous étions... que des études.
Est-ce que votre ressenti, Nicolas Langanet, votre investissement, votre engagement pour le climat, il reflète ce que pense la majorité des élèves ingénieurs dans votre école ou pas, très sincèrement ? Ou dans d'autres écoles, des étudiants que vous côtoyez ?
La frange militante est faible et reste, à mon sens, plutôt constant. Par contre, il y a une part de plus en plus croissante d'étudiants et d'étudiantes qui sont conscients de ces questions-là. Après, est-ce que, pour beaucoup, ça reste que de la sensibilisation et pas une prise de conscience qui les mènerait à de l'action. Mais en tout cas, plus on avance, plus il y a d'étudiants qui arrivent déjà formés sur ces questions-là.
Damien,
je peux rebondir. Ce que je constate également, c'est que ça dépend beaucoup des aspirations initiales des étudiants. C'est-à-dire que si on a un étudiant qui se dirige vers le numérique ou vers la motorisation parce qu'il a une appétence pour la technique ou ce genre de choses, souvent il va être moins sensible à ces questions-là, alors que d'autres vont aller plutôt vers des parcours énergie-environnement, peut-être justement parce qu'ils y sont sensibles. Donc on a quand même une nuance.
Je précise que vous-même, Damien Michaud, vous avez eu un parcours professionnel, vous avez travaillé pour le groupe Renault.
Renault Trucks.
Oui, bah oui, mais enfin, c'est... Voilà. C'est de la motorisation.
Exactement, donc je sais de quoi je parle.
Ça veut dire que vous aimez bien les... À l'origine, vous étiez intéressé par la motorisation.
J'avais l'appétence pour ces questions techniques, même, je peux le dire, pour la vitesse, la puissance, ce genre de choses. Un peu le paradigme initial, un peu des années 80, 90, 2000, des ingénieurs un peu dominants. Donc j'ai fait ma propre révolution intérieure qui m'a permis de réaliser certaines choses. Et je pense qu'il faut dire quelque chose. Les ingénieurs sont aussi des humains, on l'oublie parfois. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils ont aussi une conscience, qu'il faut qu'on fasse appel à cette conscience. Ils ont cette dimension technique, ils raisonnent en processus, ils raisonnent en mathématiques, en physique, c'est très puissant. Mais quelque part, il ne faut pas qu'on oublie d'alimenter aussi leur côté humain, leur conscience, le lien qu'ils ont avec la nature, leur environnement, la société. Et aussi, d'un autre côté, eux-mêmes doivent réaliser qu'ils sont humains, qu'ils travaillent avec des humains pour l'humanité, pour les écosystèmes, qu'on fait partie de ces écosystèmes. Et donc, il faut qu'ils prennent en compte des dimensions pas uniquement techniques.
Ouais, mais est-ce que c'est possible quand toutes ces écoles d'ingénieurs sont dans la recherche de l'excellence ? Nicolas Freud, vous qui co-dirigez l'INSA, une école d'ingénieurs, qui fait partie des grandes écoles d'ingénieurs ?
Cette question de l'excellence, elle est délicate. On a une conception de l'excellence qu'il faut certainement questionner. L'excellence aujourd'hui, au regard des enjeux socio-écologiques, c'est certainement plus la même que c'est la conception qu'on avait il y a 10 ans, 20 ans. Pour peut-être compléter ce que disait Nicolas Langanet, dans les années 2018, lors des mobilisations étudiantes, les préoccupations des étudiants ont rejoint celles d'un certain nombre d'enseignants. Et petit à petit, ça nous a permis de mobiliser la direction de l'établissement pour lancer un grand chantier d'évolution de nos formations et introduire ces nouveaux enjeux socio-écologiques au cœur de la formation. Alors bon, ça me fait un petit peu mal d'entendre ce que disait Nicolas Langanet sur le fait que ça reste encore un peu à la marge. Et on travaille fortement pour que ça pénètre au cœur des formations, mais c'est un travail de longue haleine. Les enseignants ne sont pas toujours bien armés, ils sont experts d'une discipline, mais quand on parle du climat, quand on parle des enjeux socio-écologiques de manière large, c'est vrai que ça demande un effort très important pour se former sur ces questions-là qui sont très compliquées.
Très compliquées et avec parfois une forme de malentendu, Damien Michaud. Comment t'enseigner par exemple le concept de croissance verte ?
Bon, je pense que ça dépend beaucoup des écoles d'ingénieurs. Il faut déjà qu'il y ait des cours d'économie, ce qui n'est pas forcément toujours le cas de macroéconomie. Si c'est le cas, évidemment, la plupart du temps, ça va être selon l'orthodoxie classique. Donc la croissance avant le vert, le mot verte dans croissance verte, effectivement.
Donc il y a de l'argent à gagner parce qu'on va tout changer.
Oui, c'est-à-dire qu'on dit on va minimiser, réduire un petit peu les impacts à la marge, mais on va réduire l'augmentation des impacts, ce qui n'empêche pas qu'ils augmentent quand même. Donc on ne va pas révolutionner le fait que notre économie, c'est ce qu'on dit au Shift Project, je le rappelle, c'est que l'économie elle est basée sur des flux physiques, sur une matérialité. On invente de l'argent éventuellement, mais on ne peut pas inventer la gravité, on ne peut pas inventer les tonnes de sable pour faire du béton. Ça, ce n'est pas possible. Et donc, on ne peut pas se passer de cette analyse de flux de matière, de tonnes de béton, d'acier et ce genre de choses dans notre analyse. Et au bout d'un moment, on n'en aura plus. On va tellement polluer notre planète qu'il y aura une limite. Il faut se rendre compte de ça, je pense.
Oui. Mais pourtant, aujourd'hui, il faut quand même rappeler, on a une énorme pénurie d'ingénieurs dans un pays comme la France, et pas seulement, Nicolas Freud.
Oui, on a besoin d'énormément d'ingénieurs. Nous, on est un petit peu dans le service public, on a un peu de mal à augmenter notre flux d'étudiants. On voit beaucoup se développer des écoles privées pour répondre davantage aux besoins d'ingénieurs dans l'industrie et dans l'ensemble des secteurs d'activité, oui, clairement.
Et est-ce qu'il n'y a pas dans toutes ces écoles, hein, notamment ces écoles privées, une idéalisation de l'innovation technologique comme une fuite en avant pour faire perdurer la croissance économique?
C'est certainement un mythe, le mythe de la croissance sans limite. Et en fait, quand on regarde les données scientifiques, on s'aperçoit que ce ne sera pas possible. Continuer cette croissance du PIB, qui est très fortement corrélée à l'utilisation des énergies fossiles, maintenant, scientifiquement, on sait que ça ne sera pas possible. Donc, ça fait partie des choses qu'on souhaite enseigner, montrer que l'activité des ingénieurs qui est, finalement, les ingénieurs sont derrière tout ce qu'il y a de matériel dans notre vie, tout ce que nous produisons, tout ce que nous consommons, il y a des ingénieurs derrière. Et il faut accepter le fait que ça n'est pas sans limite. Et donc, l'un des premiers éléments qu'on apporte à nos étudiants dès la première année du cursus d'ingénieur, c'est de parler des limites planétaires précisément et de montrer que sur les 9 limites planétaires identifiées, 6 sont dépassées et nous mettent dans une situation de danger.
À savoir, les 6 qui sont dépassées.
On peut mentionner les principales, c'est-à-dire le changement climatique, c'est-à-dire l'érosion de la biodiversité, le changement d'utilisation des terres, la perturbation des grands cycles de l'azote, du phosphore. Voilà, pour évoquer les principales.
Si je peux compléter, il me semble qu'il faut faire le lien avec le travail des ingénieurs en poste. C'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'on dépasse ces limites planétaires? Je pense qu'il faut tous qu'on se rende compte de l'omniprésence de nos technologies, de nos techniques, de nos infrastructures. Elles sont partout, partout, partout. Et je ne sais pas si tous les ingénieurs ou même tous les citoyens se rendent compte non seulement de leur omniprésence, c'est une première chose, mais surtout de leur impact. De la création d'un produit, de l'extraction des matières dans les mines, en Afrique, en Australie, dans plein d'îles, jusqu'à le traitement, le déchet, brûler le déchet la plupart du temps, et toutes les pollutions que ça occasionne, le changement climatique, la limitation des ressources et les impacts sociaux.
Justement, on va voir ça à travers plusieurs exemples. Comment enseigner l'innovation? Parce qu'on peut... On ne peut pas dire à une école d'ingénieurs qu'elle doit renoncer à l'enseignement de l'innovation, bien sûr. Mais dans une nécessité de développement durable, ou plutôt, le gros mot qu'il ne faut pas prononcer, de décroissance, hein, on va en discuter à la lumière de plusieurs exemples avec vous. Nicolas Freud, Damien Michaud et Nicolas Langanet.
8 milliards de voisins et de voisines.
Les pays les plus éloignés aujourd'hui, on sait tout ce qui se passe au bout du monde.
8 milliards de voisins et la planète se parle.
Alors, Nicolas Freud et Damien Michaud, j'aimerais que vous nous donniez des exemples précis, notamment à la lumière des rapports du Shift Project, Damien Michaud. Parce que plus les ingénieurs gagnent en efficacité, plus, vous l'avez dit, hein, ça développe les usages, les besoins, les déchets, etc. etc. Est-ce qu'on peut prendre des exemples? Je ne sais pas, la mobilité, les véhicules électriques, est-ce que c'est une solution qui règle la question de fond de la mobilité ou pas? Le recyclage, d'autres technologies extrêmement complexes pour stabiliser le climat, comme la manipulation de l'atmosphère, enfin, les puits de carbone. Quels seraient les exemples ou plutôt les applications concrètes des technologies d'ingénierie qui montrent qu'aujourd'hui, il faut renverser la tendance, enseigner l'ingénierie différemment. Qui prend la parole? Nicolas Freud ou Damien Michaud?
Moi, je suis prêt.
Allez-y.
Si on prend l'exemple de la mobilité, qui est un sujet fondamental, aussi bien en France qu'au niveau mondial, en termes de gaz à effet de serre et de pollution locale, la voiture électrique, en fait, ce n'est pas vraiment la question. Et la question de l'innovation que vous posiez, je pense qu'il faut l'élargir. C'est-à-dire qu'il ne faut pas penser innovation uniquement technique. L'innovation, elle peut être en fait organisationnelle. Et même si elle est technique, je pense qu'il faut re-questionner ce que veut dire l'innovation. Donc pour moi, ça pourrait être par exemple, comment est-ce qu'on assure l'essentiel aux populations avec moins? Ça pourrait être utiliser ce qu'on appelle l'approche des low-tech. Donc on re-questionne carrément le besoin, on n'est pas juste dans une réponse à un cahier des charges hyper ambitieux, on est dans la performance, dans l'accélération, et l'optimisation que vous l'avez dit est paradoxale, puisque l'optimisation nous permet de faire plus avec moins, certes, mais on fait toujours plus et on démultiplie à l'échelle mondiale, ce qui fait que ça augmente les pollutions, les impacts négatifs.
Donc, pour moi, là, il faut on se recentrerait davantage sur les usages humains, les comportements humains.
Et si on revient sur la mobilité, on pourrait très bien repenser justement quelle est cette mobilité. Il faut l'adapter au territoire, aux besoins des personnes. Donc si on est en territoire rural, comment est-ce qu'on fait pour se déplacer? Moi, j'ai 3 filles. Comment je fais pour me déplacer? Donc à 5, emmener les enfants à l'école dans un territoire semi-rural, sans prendre sa voiture.
Vous habitez en Bretagne,
précise. Voilà, sans prendre sa voiture. Comment est-ce qu'on fait? Alors moi, j'ai un vélo cargo, donc je mets les 3 sur le vélo derrière. Mais bon, je peux faire quelques kilomètres. Et la question de la protection, de la sécurité, elle est quand même assez importante. Donc est-ce qu'on a des véhicules très légers, très peu consommateurs, éventuellement d'électricité, donc très peu carbonés, donc peu émetteurs de gaz à effet de serre? Aujourd'hui, il n'y a pas de véhicules. J'ai cherché partout, il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Donc les ingénieurs, ils ont un rôle à jouer là-dedans.
Qu'est-ce qui n'existe pas exactement?
On n'a pas de véhicules très bas carbone pour une famille de 5 qui permettent d'avoir une vie locale développée sans faire nécessairement 800 km à 130 km/h.
Si on n'habite pas en ville, c'est ça.
Voilà,
hein, si on ne peut pas bénéficier des transports en commun. Mais est-ce que ça, par exemple, c'est la mission d'une école d'ingénieurs de préparer les jeunes à ces futures questions-là, Nicolas Freud? Est-ce que ce n'est pas un peu trop, justement, low-tech et pas très technologique, finalement?
Alors, c'est certainement controversé, mais pour ma part, je réponds oui. C'est bien notre rôle en tant qu'école d'ingénieurs. Pour continuer sur cet exemple de la mobilité, on ne résoudra pas le problème de la mobilité en remplaçant simplement des véhicules thermiques par des véhicules électriques. Si on veut remplacer nos dizaines de millions de véhicules par des véhicules électriques, mais en gardant des véhicules de 1,5 tonne, 2 tonnes, alors qu'on pourrait tout à fait aller davantage vers des véhicules plus légers, vers des véhicules partagés, donc des usages différents. Là, certainement, il y a des choses à gagner.
Mais ce sont bien les écoles d'ingénieurs qui ont produit les ingénieurs qui aujourd'hui fabriquent des voitures qui sont beaucoup plus lourdes et beaucoup plus grosses qu'avant. Je veux parler évidemment des SUV.
Absolument. Et là où on se fourvoie un petit peu, c'est que on innove, on gagne en efficacité. On a des moteurs qui sont plus performants, mais ces gains d'efficacité sont annulés par des effets rebonds, en fait. Ce serait bien que ces gains d'efficacité nous permettent de consommer moins de carburant. Or, ça n'est pas le cas.
Mais pourquoi c'est pas le cas?
Parce qu'on produit des véhicules plus lourds ou parce qu'on fait davantage usage des véhicules, on fait plus de kilomètres. Et donc, à la fin, il n'y a pas de bénéfice global pour la société.
Mais la question, elle n'est pas que technique.
Allez-y, Damien Michaud.
La question n'est pas que technique, parce que pourquoi est-ce qu'on fait des véhicules plus lourds? C'est parce que le modèle économique est plus rentable avec des véhicules plus lourds. Forcément, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc les ingénieurs, ils sont là pour le coup, dans des grosses entreprises comme ça, ils sont malheureusement un espèce de rouage au service d'une grosse machine. Donc il faut que même on arrive dans les écoles d'ingénieurs à leur faire comprendre qu'il existe d'autres modèles économiques alternatifs, d'autres manières de faire transformer ces modèles-là. Dans le numérique, ça peut être le cas aussi, vu qu'on est sur des modèles émergents, il faut vraiment faire changer les choses tout de suite. Et qui puissent contribuer activement à ça avec des propositions techniques qui alimentent des nouveaux modèles. Comme l'a dit Nicolas, avec par exemple des partages d'usage, ou ce genre de choses.
Oui, mais est-ce qu'on reste vraiment un ingénieur dans ce cas-là, Nicolas Langanet? Vous ne sentez pas, par rapport à vos camarades, un peu marginalisé avec ce type de raisonnement en tant qu'étudiant?
Peut-être qu'on est marginalisé aujourd'hui. Par contre, très vite, je pense que ces positionnements, cette compréhension du monde, en fait, c'est en avoir une lecture politique, ça va démarquer. Je reprends 2 secondes mon raisonnement,
oui.
Mais ça va nous démarquer parce que en fait les enjeux sur lesquels que l'on traite, ils sont à l'échelle de la société. Si on reprend l'exemple de la voiture, là on le traite sur le prisme de la voiture, mais il y a les transports en commun, il y a le train, c'est des systèmes qui sont assez gros. Et si en tant qu'étudiant on comprend comment un système technique se met en place, donc comment on passe de tout voiture à du train, du transport en commun, du vélo. Plus on a ces informations tôt, plus ensuite on va pouvoir les remettre en place concrètement dans le monde.
Et là, on a besoin d'ingénieurs pour travailler sur les flux, notamment.
Bien sûr, et pas que d'ingénieurs. Mais la question technique est essentielle pour la mise en place. Après, le choix de société ne doit pas être capturé par les seuls ingénieurs. Les citoyens ont aussi le droit à la parole sur l'orientation des choix techniques, et les usagers également.
Et d'ailleurs, sur la question de la mobilité, je rejoins tout à fait les propos de Nicolas Langanet. Ce n'est pas qu'une question d'outils, c'est une question de vision globale des différents systèmes, puisque le besoin, c'est de se déplacer, c'est pas de prendre la voiture. On voit que si les écoles d'ingénieurs ne se saisissent pas de ce sujet rapidement, si elles ont une spécialité automobile, qu'elles gardent cette spécialité automobile sans élargir leur vision, elles vont se faire dépasser. Il y a une école de la mobilité qui est en train de se créer. Moi, je suis au conseil scientifique, donc je la connais, elle est en train de se créer. Elle s'appelle Ecomob. Et elle repense la mobilité depuis le début. Et pas juste par un prisme technique de tel ou tel. C'est pas le ferroviaire uniquement, c'est pas le vélo uniquement. Non, c'est adapté aux usages.
Si on prend un autre exemple, Nicolas Freud, comme le recyclage. On sait que le recyclage ne fait pas baisser la consommation de matières neuves. C'est le cas en tout cas pour le plastique, où la fuite en avant continue. Donc là aussi, ce sont des innovations technologiques qui ont été conçues grâce aux écoles d'ingénieurs. Et ça nous mène où finalement?
C'est sûr que la question du recyclage, elle est intéressante, mais plus largement, c'est un changement de modèle économique, c'est-à-dire que ce qu'il faut arriver à dépasser, c'est le fait d'extraire toujours des matières premières, de fabriquer des produits, puis ensuite d'avoir des déchets qu'on recycle souvent très partiellement. Et à ce modèle, il faudrait substituer un autre modèle beaucoup plus circulaire. Mais ce n'est pas non plus compatible avec un modèle de croissance économique où on veut produire et mettre sur le marché toujours plus d'objets. Donc, c'est cette vision globale aussi qu'il faut amener à nos étudiants. Comment on passe d'une économie linéaire, extractive, à une économie circulaire avec de nouveaux indicateurs et comme boussole, pas seulement la croissance économique. Je suis pas du tout dans une vision forcément de décroissance. Vous disiez, c'est un gros mot, et particulièrement dans une école d'ingénieurs, c'est un mot qu'on a du mal à utiliser. Mais on peut au moins s'accorder sur le fait que le PIB n'est pas forcément le seul ou le meilleur indicateur pour orienter nos développements.
Enfin, on peut même aller plus loin. Parler de décroissance dans une école d'ingénieurs, c'est le meilleur moyen de se tirer une balle dans le pied, non ?
Mais il va falloir à un moment se poser cette question-là sérieusement. C'est des questions techniques hautement compliquées de se poser la question de la décroissance. C'est comment on assure un confort à des gens en diminuant la quantité d'énergie nécessaire pour le mettre en place et la quantité d'énergie, la quantité de ressources et la quantité de travail pour avoir des choses qui permettent à toutes et tous de vivre dans des bonnes conditions. Si je prends l'exemple, là je travaille actuellement en stage dans une coopérative qui s'appelle l'Atelier Paysan et l'objectif de cette coopérative, c'est de travailler directement avec les agriculteurs qui sont les sociétaires pour la conception d'outils adaptés à leurs pratiques agricoles. Les agriculteurs sont moteurs dans la conception de ces outils, puis on les forme ensuite à travailler le métal pour qu'ils apprennent à les fabriquer eux-mêmes, et les plans issus de ces conceptions sont diffusés et accessibles librement. Ça, on est dans une perspective qui vise le partage de l'information, le partage de la compétence, la réappropriation technique. Pour moi, ça, par exemple, ce genre d'initiative permet de sortir d'une logique purement consommatrice et permet de se réapproprier aussi la technique et l'orientation de celle-ci par les usagers et usagères.
En même temps, vous avez conscience que dire aux agriculteurs que certes, il faut sortir d'un endettement, notamment quand on achète un tracteur à plusieurs centaines de milliers d'euros, ils vous répondent, mais on va pas revenir à l'âge de pierre quand même. Hein. C'est quand même ça l'éternel débat.
Mais c'est là où justement la place des ingénieurs est intéressante, c'est que le système industriel majoritaire en agriculture, est un dispositif technique qui a été pensé, qui a été mis en place sur plusieurs dizaines d'années avec la suppression des haies, avec un machinisme agricole de plus en plus grand. Mais c'est parce qu'il y a des règles sociales derrière, c'est parce que la PAC promeut d'avoir des exploitations de plus en plus grandes, qu'il y a des tracteurs de plus en plus grands et qu'il y a une augmentation de la puissance et une diminution du nombre d'agriculteurs. Si on choisit un autre système technique, un autre système social de production, derrière, on pourrait re-choisir de replanter des haies, de réorganiser la production autrement, de redistribuer le travail autrement, et derrière, les ingénieurs seront là pour proposer d'autres manières de faire de la technique plus adaptées aux nouveaux choix.
Je précise quand même que vous vous adressez à nos auditeurs qui nous écoutent là en ce moment, qui sont très majoritairement sur le continent africain, qui est le continent le moins mécanisé dans son agriculture de toute la planète, et qui est aussi le continent où la terre produit le moins. Donc c'est aussi quand même un vrai problème. Vous souhaitiez réagir, Damien Michaud?
Oui, sur la question de la décroissance ou des difficultés à changer de modèle, comme sur cette question des agriculteurs. Ce qu'on rappelle souvent au Shift Project, c'est qu'il vaudrait mieux anticiper les crises plutôt que de les subir. Et ce qu'on est en train de voir, c'est qu'on est dans une société qui est devenue une société de permacrise. Il y a des crises permanentes, de plus en plus présentes. Est-ce qu'il vaut mieux pas anticiper quelque chose qui va arriver ? Donc c'est pareil pour les écoles d'ingénieurs.
Alors justement, j'aimerais que vous nous expliquiez là dans quelques instants, quelle est votre approche au Shift Project pour faire évoluer les écoles d'ingénieurs et puis aussi sur place, sur le terrain, dans les différentes écoles qui ont toutes des cultures un peu différentes. Quels sont les freins du côté des enseignants, du côté des étudiants, du côté aussi de la culture même de l'école ? On en discute.
8 milliards de voisins.
Et de voisines.
8 milliards de voisins, on est ensemble.
Damien Michaud, comment vous travaillez pour faire évoluer ces écoles d'ingénieurs donc ?
Alors je dirais que la manière dont on a travaillé, c'était avec le groupe INSA, donc les 13 écoles du groupe INSA, y compris l'INSA de Lyon. On a travaillé en co-construction, c'est-à-dire on ne s'est pas placé justement comme un enseignant dans un amphi qui prodiguerait le savoir, pas du tout. Les savoirs, ils viennent de tout le monde, donc des experts scientifiques, des citoyens, des ONG, des entreprises, des partenaires, des étudiants et des enseignants évidemment. Donc on a bâti en fait des propositions tous ensemble. Je pense que c'est un des points les plus importants. Il faut qu'on suscite l'adhésion, il faut qu'on ait une certaine pertinence, il faut qu'on ait différents points de vue. Bon, on n'a pas consulté les peuples premiers, peut-être qu'on aura dû le faire une autre fois quand on aura plus de temps. Et donc ça c'était sur la méthode. Après sur le contenu, ce qu'on pense c'est qu'il faut passer par une étape de sensibilisation et d'éveil pour que ces étudiants puissent réaliser à quel point il y a une crise vraiment extrêmement grave au centre duquel ils ont vraiment un pouvoir d'agir. Ils ont quelque chose à faire, ils ont un rôle. Donc pour moi il y a vraiment la question de la prise de conscience. Ensuite, il y a évidemment qu'ils puissent développer des compétences, qu'ils puissent eux-mêmes s'approprier des connaissances. Il y a beaucoup de choses à développer.
Donc, notamment, mais concrètement, sur quoi ça
commence ? Sur la technique, ouais. Puisque ce qui est vraiment au centre du métier de l'ingénieur, c'est la technique, c'est les technologies. La première chose, c'est d'évaluer les impacts d'une technologie quand on va la déployer. Comment est-ce qu'on fait ? C'est bien les ingénieurs qui ont des outils intellectuels, en tout cas qui sont possiblement formés à ça. On a ce qui s'appelle l'analyse de cycle de vie, qui permet d'évaluer les impacts environnementaux du début à la fin de vie d'un produit, mais pas uniquement. Ça peut être aussi les impacts sociaux et sociétaux, et même à l'autre bout de la Terre. Ça, c'est important, on l'oublie souvent, ces impacts sociétaux dans les écoles d'ingénieurs. Donc, il faut qu'on s'appuie aussi sur des sciences humaines et sociales, aussi bien que sur des sciences dites des sciences dures, de la physique, des mathématiques. Donc voilà, on a déjà cette première chose, c'est faire le lien avec les impacts. Ensuite, on a évidemment plein de nouvelles méthodes de conception, on va intégrer tout ça. Après, il y a tout ce qui est changement de comportement, prise de conscience, être capable justement de travailler dans des démarches de co-construction, être capable de proposer des business models, des modèles économiques, qui soient un peu plus alternatifs. Et je dirais même, il faut aller plus loin.
C'est quoi un business model alternatif ? C'est-à-dire qu'on gagne moins d'argent concrètement ?
Ça veut dire comment est-ce qu'on fait perdurer une entreprise qui a pour vocation, qui a pour obligation de gagner de l'argent aujourd'hui, hein. Quand on est en SA, donc en société anonyme par exemple, on a obligation de gagner de l'argent, c'est obligatoire. Comment est-ce qu'on fait pour quand même, malgré tout, prendre en compte tous ces enjeux-là ou carrément changer de statut, si c'est le cas, avec des acteurs plus locaux où on va développer la résilience du territoire face aux crises, on va développer des liens économiques et sociaux plus locaux et moins liés aux enjeux mondiaux.
Nicolas Freud, vous êtes un co-dirigeant à l'école d'ingénieurs l'INSA à Lyon. Quand vous entendez Damien Michaud, ou plutôt si vous mettez à la place de vos enseignants, quelle est l'inquiétude du côté des enseignants ? Parce qu'on a l'impression qu'on parle pratiquement plus de sociologie que de technologie, là.
Oui, c'est pas facile avec les enseignants qui sont des scientifiques experts d'une discipline.
Très spécialisés.
Ils ont l'impression. Ouais, très spécialisé, des physiciens, des chimistes, des mathématiciens, des mécaniciens, etc. Et ils ont l'impression, quelque part, qu'on va éroder la formation scientifique et technique de nos étudiants.
Donc, on revient toujours à une inquiétude sur l'affaiblissement des connaissances scientifiques, la baisse de l'excellence, si on s'occupe trop de la transition écologique.
Oui, pour certains, aux yeux de certains. Et en même temps, ils ont bien conscience que les ingénieurs vont être confrontés à ces enjeux dans les entreprises qui vont les employer. Et parallèlement, du coup, c'est très intéressant de travailler, de collaborer avec des entreprises qui ont pris elles-mêmes conscience de ces enjeux et qui sont en train de se transformer et qui, du coup, expriment le besoin qu'on forme nos étudiants différemment. On forme des étudiants qui vont être sur le marché du travail pendant 40, un peu plus de 40 ans. Et donc, il faut se projeter à assez long terme quand on forme des ingénieurs. Et c'est intéressant de travailler avec des entreprises. Je pense à l'expérience de la Convention des entreprises pour le climat, les entreprises expriment fortement leurs préoccupations par rapport aux enjeux de décarbonation, par exemple. Elles ont bien compris que pour certaines d'entre elles, c'est une question de survie de leur activité de prendre en compte ces enjeux de décarbonation, de sortie des énergies fossiles. Donc voilà, ça légitime le besoin de faire évoluer nos formations et de donner plus de place à la compréhension des enjeux écologiques, mais qui sont donc des enjeux également sociaux. Et là, c'est vrai que c'est déstabilisant pour nous parce qu'on n'est pas des enseignants experts des enjeux sociaux.
Damien Michaud, juste en quelques mots, est-ce qu'il y a des écoles à la traîne ? Quelles sont les écoles les plus réfractaires ? Est-ce que c'est celles que l'on imagine ou pas ?
Je ne sais pas ce que vous imaginez.
Est-ce que les plus grandes écoles d'ingénieurs les plus connues sont très en avance sur ces questions-là ou pas du tout ?
Moi, je n'ai pas fait d'analyse de toutes les écoles d'ingénieurs récemment, c'est difficile de répondre. Mais ce que je peux dire, c'est que la plupart des grandes écoles ont bien compris qu'il y avait un enjeu fondamental et elles ont plus de moyens pour le faire. Donc la plupart du temps, elles le font. Les plus petites écoles qui ont moins de moyens, c'est plus difficile. Surtout quand elles sont spécialisées dans un domaine, un secteur, c'est difficile de s'ouvrir comme ça.
Mais Polytechnique et sa proximité avec le groupe Total Energy, par exemple.
Oui, ça c'est un problème, c'est évident. Bien sûr que c'est un problème. La question des lobbies, elle est prégnante dans notre société. On ne peut pas faire ça, c'est pas possible.
Et comment réagissent les industriels qui sont les futurs employeurs diplômés d'écoles d'ingénieurs ? Certes, on a cité les entreprises qui ont compris qu'elles allaient devoir apporter des solutions pour la transition écologique, mais il y a aussi beaucoup d'industriels qui sont dans l'immédiateté.
Tout à fait, mais de toute façon, je pense qu'il faut rassurer aussi les enseignants. On ne va pas former des ingénieurs, ce qu'on appelle science et vie, c'est-à-dire qu'on va continuer à former des ingénieurs qui savent maîtriser la technique, les sciences de l'ingénieur, les sciences de la physique. Ça, c'est pas un problème. On continue à l'enseigner, on le dit pas assez, mais il faut rassurer quand même. Donc ça, c'est pas un problème. Les ingénieurs, ils savent s'adapter à tout ça. C'est plutôt qu'on va leur donner des compétences élargies, je dirais. Donc il faut pas trop s'inquiéter en tant que prof, en tant qu'école, en tant qu'étudiant, je veux dire, on va avoir plus de compétences et ça va être des compétences nécessaires de toute façon dans un futur proche.
Nicolas Langanet, vous en tant qu'étudiant de 22 ans, qu'est-ce que vous a appris cette expérience de co-construction, de participer dans votre école à améliorer les programmes, à les adapter aux enjeux climatiques, et quelle serait pour vous l'école d'ingénieur idéale dans ce contexte d'urgence climatique ?
Moi, ce que m'a appris ce travail d'évolution de la formation qu'on a entrepris vraiment avec beaucoup d'étudiants à l'INSA Lyon, on était peut-être plus d'une soixantaine, c'est en fait la difficulté de changer un établissement qui est issu de son histoire et de son évolution. J'ai découvert qu'il y avait des rapports de force existants entre enseignants, entre disciplines, entre laboratoires, entre départements, qui en fait conditionne la formation que l'on a. Et quand on essaye de la faire transformer avec une approche thématique sur les enjeux socio-environnementaux, eh bien, on s'affronte à tous ces rapports de force internes. Donc, il faut apprendre à jouer avec. Donc ça, moi, ça a été vraiment un gros apprentissage. Et sur une école d'ingénieurs idéale, pour moi, c'est une école où on apprend… quel est l'impact de la technique sur la société ? En fait, on prend la technique, on conserve le bagage technique que l'on a, mais on y ajoute la compréhension de l'impact de cette technique et aussi où va la société actuellement ? Qu'est-ce qu'il en est des enjeux socio-environnementaux ? Qu'est-ce qu'il en est des questions sociales ? Parce que nous, en tant que qu'individu, en tant que futur ingénieur, on a un pouvoir énorme en fait sur la modification de la société. On a souvent des postes à responsabilité, on a souvent le pouvoir de choisir dispositifs techniques.
Merci Nicolas Langanet, vous avez une sacrée maturité quand même, hein, à 22 ans. Merci infiniment d'avoir participé à l'émission et aux discussions. Merci à vous Nicolas Freud, directeur adjoint de l'INSA Lyon, Institut National des Sciences Appliquées, donc grande école d'ingénieurs. Et d'ailleurs j'en profite, Nicolas Langanet, vous, en un seul mot, votre métier demain, ça sera quoi ?
Démanteler les infrastructures qui sont problématiques pour la société, je pense.
D'accord, on a compris qu'en tout cas, vous aurez un métier engagé. Et merci à vous, Damien Michaud, du Shift Project, une association française et laboratoire d'idées pour l'atténuation du changement climatique et la réduction de la dépendance de l'économie aux énergies fossiles. Je renvoie à vos deux rapports, plus que jamais d'actualité. Les liens sont sur notre page. Un rapport qui s'appelle « Mobiliser l'enseignement supérieur pour le climat » et puis aussi « Enquête sur les connaissances et compétences pour l'ingénieur du 21e siècle ». Et puis n'oubliez pas aussi, les voisins et les voisines, pour rester informés sur les questions du climat, de la transition écologique, bien sûr. Direction RFI.fr. Dans quelques instants, RFI Midi, avec l'actualité de la mi-journée, ça sera juste après le groupe Hier et ses textes grinçants, nostalgiques. La chanson s'intitule « À la montagne », un titre à retrouver aussi dans la playlist RFI.
Les yeux, j'hésite entre croire et douter, et je fais les deux. Dans mon monde, il s'agirait de ne pas finir seul. Je fais tout à l'envers avant la charge, je mets les peu. Tellement de questions résonnent dans ma tête, maintenant je gère la pression comme sur plateau télé. Dernière informé de ce qui passe à l'antenne, ce soir j'éteins mon tel et je reste à la maison. Je me laisse aller, je fais tout feeling high. Yeah. Ça fait des années, c'est pas prêt d'être fini. J'suis souvent dans un état lamentable. Et ça va, on s'y fait, c'est l'avantage. J'ai besoin de vacances à la montagne. Mes parents mis sur moi, c'est pas rentable. J'suis souvent dans un état lamentable. Et ça va, on s'y fait, c'est l'avantage. J'ai besoin de vacances à la montagne. Mes parents mis sur moi, c'est pas rentable.
En réalité, j'suis bien alité. Ce que j'ai envie. J'aime pas la vie d'adulte, j'aime bien la vitesse. Mais je m'accroche encore à trop de banalité. Non, j'étais pas discret, j'étais timide. J'aimais trouver 10 000 raisons d'être optimiste. Il pourrait même arriver la pire histoire que ma vie que je relativise. Ouais, non, personne pourra me changer, surtout pas une meuf. Surtout pas une soirée si je suis pas d'humeur. Quand j'ai un truc en tête, je me tue à la tâche. Je crois qu'il manque un état, je me suis trop allumé.
Je suis souvent dans un état lamentable. Et ça va, on s'y fait, c'est l'avant.
Demain, 8 milliards de voisins, Laurence Garcia vous donne la parole sur l'envers des fripes. Pourquoi la seconde main ne fait pas baisser la production de vêtements neufs? Les voisins et les voisines, dites-nous ce que vous achetez sur les marchés de fripes à ciel ouvert ou dans des centres commerciaux sur le continent africain. Est-ce que vous vous sentez par exemple inondé par les déchets textiles du Nord? Appelez-nous sur notre compte WhatsApp au 33 7 64 45 51 41. Merci à toute l'équipe qui prépare cette émission. Juliette Bro, Delphine Cachin, Tom Malky, Romain Dubrac. Et bien sûr, vous réécoutez toutes nos discussions en direct à l'heure qui vous arrange en podcast sur les plateformes de téléchargement et sur l'appli RFI Pure Radio.